Bonjour Christophe Cottret.
Bonjour.
Votre film est construit autour d'un entretien que vous a accordé le président rwandais Paul Kagame. Il vous a fallu 2 ans pour décrocher cette interview. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il a accepté de vous parler?
Parce que je pense que c'était le bon moment, après qu'il ait pu vérifier effectivement que mes intentions étaient objectives, parce qu'il y a eu des entretiens avant avec d'autres responsables politiques, avec d'autres personnes qui ont été au cœur de ce mouvement, que ce soit des gens, des responsables de la propagande, que ce soit des responsables politiques. Ils ont pu vérifier que je serais en tout cas neutre. Et puis je pense aussi que pour les responsables de l'époque de la fondation du Fonds Patriotique Rwandais, c'était en 1987, ils sont des gens qui vieillissent et qui ont envie, qui ont intérêt à raconter les subtilités de leur histoire. Pas simplement de dire voilà, il y a eu un génocide, c'est important, il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de films ont été faits là-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, quelle était la nature de notre combat, et je pense que certain nombre de personnes avaient envie de témoigner dessus. Et c'était le cas pour Paul Kagame après 2 ans.
Pourquoi est-ce que finalement c'est important aujourd'hui de raconter les génocides rwandais par ce prisme-là, par celui de la construction du FPR, sa construction militaire idéologique?
Quand le FPR se crée en 1987, évidemment, personne ne peut imaginer qu'il va y avoir un génocide 7 ans après. Donc le projet politique qui est pensé par le FPR en 87 va devoir se repenser, se reconstruire. Se reconstruire sur quelle base? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait après 1994, qu'on est en juillet 1994, qu'on prend le pouvoir, quand une partie de la population a décidé sciemment d'exterminer une autre partie de la population. Il va falloir recréer pour eux non seulement les bases d'une économie, non seulement les bases d'une police, d'une justice, etc., mais aussi recréer un avenir possible, donc c'est-à-dire un mythe commun du Rwanda.
Vous craignez pas qu'on vous reproche quelque part de justifier les dérives autoritaires du président Kagame par le génocide?
Donc pour moi, ce n'est pas une dérive autoritaire. Je veux dire, la violence est intrinsèque à ce pouvoir au départ, parce qu'elle doit juguler aussi la violence. Donc c'est une autorité qui est mise en place par rapport à une violence et une dérive possible. Après, effectivement, le régime se resserre. Mais je préfère le lire. M'intéresse pas de dire est-ce qu'on a affaire à un régime autoritaire, à une dictature, etc. Oui, le régime est autoritaire. Oui, le pouvoir est autoritaire, indéniablement. Mais son autorité est aussi la conséquence et le fruit d'une histoire qui est extrêmement violente et extrêmement complexe.
Alors, même si c'est pas le cœur de votre film, vous abordez évidemment le rôle trouble de la France durant le génocide. À la lumière des témoignages que vous avez recueillis, comment vous qualifiez ce rôle aujourd'hui?
D'abord, c'est pas le rôle de la France, c'est le rôle de certains responsables français de l'époque. Des fois, on dit le rôle de l'armée française pendant l'opération turquoise. Non, c'est pas le rôle de l'armée. L'armée répond à des ordres. Donc l'armée n'est pas responsable de ce qui s'est passé. La France non plus. On peut pas parler de la France parce que le Parlement n'a pas été consulté. Donc c'est certains responsables français de l'époque qui décident de mener une politique occulte de soutien aux génocidaires. Avant, pendant et après le génocide. L'armée française ou la France n'a jamais voulu le génocide des Tutsis. C'est pas ça dont il s'agit. Mais jusqu'au bout, on va soutenir les exterminateurs. Et c'est ça qui, aujourd'hui, la France doit faire toute la lumière sur cette question.
Alors, à ce propos, vous apportez un témoignage méconnu, celui du président Paul Kagame lui-même, qui raconte la capture en juillet 1994 de soldats français par les troupes du FPR. Racontez-nous dans quelles circonstances?
Là, la France vient avec l'opération turquoise pour une opération censée être humanitaire. Effectivement, il y a une partie d'humanitaire, elle est indéniable, dans l'opération turquoise. Mais il y a aussi des gens qui, au sein de l'armée française, sont là pour non pas faire de l'humanitaire, mais pour bloquer ceux qui mettent fin au génocide, c'est-à-dire pour bloquer le Front Patriotique Rwandais. Et jusqu'au départ de Turquoise, fin août, et je crois que c'est vers mi-juillet, je n'ai pas la date exacte, hein, personne n'a pu me la donner exactement, je crois qu'on est autour du 14 ou 15 juillet, il y a une zone de délimitation qu'on appelle la zone turquoise, et des soldats français vont franchir cette zone, alors qu'ils n'en ont pas le droit, effectivement, vont être capturés, et ça va être un des éléments de négociation pour mettre effectivement fin à la présence des Français sur le territoire rwandais. Alors, que faisaient ces soldats français à franchir la ligne? C'est à la France de le dire. Moi, je n'ai pas d'éléments de réponse là-dessus.
Est-ce que la France a reconnu cette capture?
La France n'a pas reconnu cette capture. Moi, je l'ai su par différentes personnes au Rwanda. J'ai parlé avec certaines personnes en France qui ne la nient pas, mais qui en nient la portée. C'est-à-dire que du côté rwandais, Paul Kagame ou certains responsables du FPR de l'époque vont me dire « Oui, mais c'est ça qui a permis de négocier le départ des Français fin août. » En France, on fait « Oui, non, c'est une petite affaire, c'est pas plus grave que ça, en fait. » Donc on ne nie pas, mais on en diminue la portée politique.
Christophe Cottret, merci.